Le cochon. Grognon mais familier comme si nous t'avions gardé ensemble, tu fourres le nez partout et tu marches autant avec lui qu'avec les pattes. Tu caches sous des oreilles en feuilles de betterave tes petits yeux cassis. Tu es ventru comme une groseille à maquereau. Tu as de longs poils comme elle la peau claire et une courte queue bouclée. Et les méchants t'appellent sale cochon. Ils disent que si rien ne te dégoûte, tu dégoûtes tout le monde et que tu n'aimes que l'eau de vaisselle grasse. Mais ils te calomnient, qu'ils te débarbouillent et tu auras bonne mine. Tu te négliges par leur faute. Comme on fait ton lit, tu te couches et la malpropreté n'est que ta seconde nature. Coq. Il n'a jamais chanté. Il n'a pas couché une nuit dans un poulailler, connu une seule poule. Il est en bois, avec une patte en fer au milieu du ventre, et il vit depuis des années et des années sur une vieille église comme on n'ose plus en bâtir. Elle ressemble à une grange, et le faîte de ses tuiles s'aligne aussi droit que le dos d'un bœuf. Or, voici que des maçons paraissent à l'autre bout de l'église. Le coq de bois les regarde, quand un brusque coup de vent le force à tourner le dos. Et chaque fois qu'il se retourne, de nouvelles pierres lui bouchent un peu plus de son horizon. Bientôt, d'une saccade, levant la tête, il aperçoit à la pointe du clocher qu'on vient de finir un jeune coq qui n'était pas là ce matin. Cet étranger porte haut sa queue, ouvre le bec comme ceux qui chantent, et l'aile sur la hanche, tout battant neuf, il éclate en plein soleil. D'abord, les deux coqs luttent de mobilité, mais le vieux coq de bois s'épuise vite et se rend. Sous son unique pied, la poutre menace ruine. Il penche, raidit, près de tomber, il grince et s'arrête. Et voilà les charpentiers. Ils abattent ce coin vermoulu de l'église, descendent le coq et le promènent par le village. Chacun peut le toucher, moyennant cadeau. Ceci donne un œuf, cela un sou, et Madame Loriot une pièce d'argent. Les charpentiers boivent de bons coups et après s'être disputé le coq, ils décident de le brûler. Lui ayant fait un nid de paille et de fagots, ils mettent le feu. Le coq de bois pétille clair et sa femme monte au ciel qu'il a bien gagné. L'autre coq. Chaque matin, au saut du perchoir, le coq regarde si l'autre est toujours là. Et l'autre y est toujours. Le coq peut se vanter d'avoir battu tous ses rivaux de la terre, mais l'autre, c'est le rival invincible, hors d'atteinte. Le coq jette cri sur cri, il appelle, il provoque, il menace, mais l'autre ne répond qu'à ses heures, et d'abord, il ne répond pas. Le coq fait le beau, gonfle ses plumes, qui ne sont pas mal, celle-ci bleue, celle-là argentée, mais l'autre, en plein azur, est éblouissant d'or. Le coq rassemble ses poules et marche à leur tête. Voyez, elles sont à lui. Toutes l'aiment, toutes le craignent. Mais l'autre est adoré des hirondelles. Le coq se prodigue. Il pose ça et là ses virgules d'amour et triomphe d'un ton aigu, de petit rien. Mais justement, l'autre se marie et carillonne à toute volée ses noces de village. Le coq jaloux monte sur ses ergots pour un combat suprême. Sa queue à l'air, d'un pan de manteau que relève une épée, il défie, le sang à la crête, tous les coqs du ciel. Mais l'autre, qui n'a pas peur de faire face au vent d'orage, joue en ce moment avec la brise et tourne le dos. Et le coq s'exaspère jusqu'à la fin du jour. Ses poules rentrent une à une. Il reste seul, enroué, vanné, dans la cour déjà sombre. Mais l'autre éclate encore au dernier feu du soleil et chante de sa voix pure le pacifique angélus du soir. La vache. Là de chercher, on a fini par ne pas lui donner de nom. Elle s'appelle simplement la vache, et c'est le nom qui lui va le mieux. D'ailleurs, qu'importe pourvu qu'elle mange. Or, l'herbe fraîche, le foin sec, les légumes, le grain et même le pain et le sel, elle a tout à discrétion et elle mange de tout, tout le temps, deux fois puisqu'elle rumine. Dès qu'elle m'a vu, elle accourt d'un petit pas léger, en sabots fendus, la peau bien tirée sur ses pattes comme un bas blanc. Elle arrive certaine que j'apporte quelque chose qui se mange. Et l'admirant chaque fois, je ne peux que lui dire, tiens, mange. Mais de ce qu'elle absorbe, elle fait du lait et non de la graisse. À heure fixe, elle offre son pis plein et carré. Elle ne retient pas le lait. Il y a des vaches qui le retiennent. Généreusement, par ses quatre trayons élastiques, à peine pressés, elle vide sa fontaine. Elle ne remue ni le pied ni la queue, mais de sa langue énorme et souple, elle s'amuse à lécher le dos de la servante. Quoiqu'elle vive seule, l'appétit l'empêche de s'ennuyer. Il est rare qu'elle beugle de regrets au souvenir vague de son dernier veau. Mais elle aime les visites, accueillante avec ses cornes relevées sur le front et ses lèvres affriandées doupant d'un fil d'eau et un brin d'herbe. Les hommes qui ne craignent rien flattent son ventre débordant. Les femmes, étonnées qu'une si grosse bête soit si douce, ne se défient plus que de ses caresses et font des rêves de bonheur. Elle aime que je la gratte entre les cornes. Je recule un peu parce qu'elle s'approche de plaisir et la bonne grosse bête se laisse faire jusqu'à ce que j'aie mis le pied dans sa bouse. Merle. Dans mon jardin, il y a un vieux noyer presque mort et qui fait peur aux petits oiseaux. Seul un oiseau noir habite ses dernières feuilles. Mais le reste du jardin est plein de jeunes arbres fleuris ou nichent des oiseaux gais, vifs et de toutes les couleurs. Et il semble que ces jeunes arbres se moquent du vieux noyer. À chaque instant, ils lui lancent, comme des paroles taquines, une volée d'oiseaux babillards. Tour à tour, Pierrot, Martin, Mésange et Pinson le harcèlent. Ils choquent de l'aile la pointe de ses branches, l'air crépite de leurs cris menus. Et puis ils se sauvent. Et c'est une autre bande importune qui part des jeunes arbres. Tant qu'elle peut, elle nargue, piaille, siffle et s'égosille. Ainsi, de l'aube au crépuscule, comme des mots railleurs, Pinson, Mésange, Martin et Pierrot s'échappent des jeunes arbres vers le vieux noyer. Mais parfois il s'impatiente, il remue ses dernières feuilles, lâche son oiseau noir et répond « Merle !» Le jet. Toujours en noir, vilain merle ? Le merle. Monsieur le sous-préfet, je n'ai que ça à me mettre. Le chat. Le mien ne mange pas les souris, il n'aime pas ça. Il n'en attrape que pour jouer avec. Quand il a bien joué, il lui fait grâce de la vie et il va rêver ailleurs, l'innocent, assis dans la boucle de sa queue, la tête bien fermée comme un poing. Mais à cause des griffes, la souris est morte. On lui dit « Prends les souris et laisse les oiseaux ». C'est bien subtil et le chat le plus fin, quelquefois, se trompe.